France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
J'ai un peu envie de dire chacun son tour. Hein. Après les clients, les spectateurs, les consommateurs, voici venue l'obligation du pass sanitaire pour les employés des restaurants, des discothèques, des bars, des cafés, des cinémas, des musées, des grands centres commerciaux, des parcs zoologiques, des parcs d'attractions, des salles de jeux, bref, partout où on accueille du public. C'est presque facile pour tout ce qui précède, au moins en tout cas assez clair. Ça devient effectivement plus compliqué quand dans les transports, par exemple, l'obligation ne concerne que les TGV, pas les TER, ce qui laisse quand même à la SNCF un enjeu important. 5000 personnes à contrôler chaque jour, presque autant pour ce qui est de l'aviation. Et puis, chez les serveurs et les serveuses qui sont jeunes pour la plupart, donc dernier à avoir eu la possibilité de se faire vacciner avant l'été, qui a eu le temps tout simplement de faire les deux doses en urgence. Même si cette première journée, comme vous l'avez entendu dans les journaux, était une journée de rodage, comme le restera d'ailleurs toute la semaine, il reste quelques inquiétudes. Comment ça va se passer à la suspension d'un contrat de travail, comment retrouver du personnel dans la restauration qui en manque déjà, comment vont se passer les contrôles. 2 millions de personnes sont concernées et c'est pas mal. Quelques casse-têtes d'employeurs à la clé ou pas. À vous de nous le dire, employés, employeurs, comment vous avez traversé cette première journée, qu'est-ce que vous avez entendu, à quels obstacles vous attendez-vous dans les jours à venir. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jacques, c'est vous le premier. Bonsoir et soyez le bienvenu.
Bonsoir. Donc, je me permets de vous appeler en fait pour poser une petite question. Je travaille dans un cinéma. Mm-hmm. Donc, on m'a demandé de faire des contrôles de passe sanitaire pour les personnes qui accèdent aux salles. Donc, c'était prévention pour l'instant, comme c'était pas obligatoire. Et donc, il y a des clients qui me disent que c'est des situations médicales. Ils sont pas obligés de le montrer.
Il y avait des situations. Attendez, je vous entends très très loin, Jacques. Des clients qui avaient des situations médicales, c'est ça?
Non, ils demandent le secret médical.
Ah, ils demandent le secret médical, pardon, d'accord.
Voilà, okay. Ils ne veulent pas montrer, donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je dois leur répondre prochainement si j'ai vécu la même chose.
Mais normalement, de toute façon, ce contrôle, vous le faites depuis le 21 juillet, si tout va bien, vous, dans votre cinéma, Jacques, ouais, non?
La première fois, je suis en vacances.
Ah oui, d'accord, ok, d'accord, vous venez de rentrer, d'accord. Ouais. Eh bien, on va tâcher de voir, tiens d'ailleurs, vous êtes tout seul dans votre cinéma, vous, ou pas?
Non, il y a plusieurs employés.
D'accord. Et justement, oui. Puisqu'on y est, les employés aujourd'hui étaient censés être sous passe sanitaire. Est-ce qu'ils le sont tous chez vous? Est-ce que ça a posé un problème de les contrôler? Comment ça s'est passé chez vous?
Pour l'instant, ça a été. Mais voilà, on est pas à l'abri, quoi. Donc, on est un peu dans le doute. Donc, moi, j'ai eu mon première dose. Donc, je suis pas encore deuxième dose. J'attends mon rendez-vous. Et donc, du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je dois leur répondre si je compte un problème tel. Et
bah alors vous, en tout cas, vous êtes obligé de faire un test PCR tous les deux jours, vous n'avez pas le choix, puisque c'est comme ça que ça se révèle. Mais cela dit, c'est intéressant parce que c'est lui le patron, Jacques, et c'est intéressant de savoir qui contrôle le patron dans ces cas-là. Pour essayer, merci beaucoup Jacques pour cette entrée en matière de faire le tour de toutes vos questions et discuter de ce fameux pass sanitaire donc pour les entreprises. Sonia Moreau est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée en droit social et puis Gaëtan Rudan est là également. Bonsoir Monsieur Rudan, vous êtes directeur régional de la Driette, c'est ce qu'on prononce, voilà, tout ça. Donc c'est l'inspection du travail. C'est un vrai cas d'école que je trouve assez intéressant, Sonia Moreau. D'abord, Jacques est patron de son propre restaurant. Est-ce qu'il s'auto-contrôle? Je dis ça sans plaisanter. Est-ce qu'il s'auto-contrôle?
De son propre cinéma.
De son propre cinéma, pardon.
Tout à fait.
Est-ce qu'il s'auto-contrôle?
Alors, il ne s'auto-contrôle pas. Après, lui, il a l'obligation, effectivement, d'être soumis, d'avoir un pass sanitaire valable. Et après, il y aura des contrôles, éventuellement, de son établissement. Et à ce titre-là, les forces de l'ordre pourraient éventuellement vérifier la validité de son pass sanitaire.
Est-ce qu'un employé a le droit de demander à son employeur s'il est lui aussi conforme, puisqu'après tout, l'employeur le demande aux employés, est-ce qu'ils ont le droit de lui retourner la politesse ou pas du tout?
Alors non, c'est de la responsabilité de l'employeur d'avoir son pass sanitaire valable. C'est lui qui va s'assurer que les collaborateurs placés sous sa responsabilité ont également un pass sanitaire valable.
Est-ce qu'on sait ce qu'on répond au cas d'école, Gaëtan Rudan, que Jacques soulevait? Si quelqu'un me dit... Pas question, secret médical. On a la réponse à ça.
D'abord, que ce soit pour les salariés ou que ce soit...
Ou pour les gens qui fréquentent le cinéma, pour le coup.
Ceux qui, comme nous, fréquentons ces lieux et sommes soumis au pass sanitaire. La confidentialité est garantie par les dispositifs qui sont mis en place, et en particulier celui qui est très, très majoritairement utilisé, l'application Tous Anti-Covid Vérif, que chacun, d'ailleurs, peut télécharger.
Absolument, mais je le fais, moi, d'ailleurs, pour tout vous dire, parce que j'étais curieuse de savoir ce que ça faisait. Effectivement, chacun peut le faire, en effet.
Et on se rend compte que, celui qui contrôle a accès à des informations très limitées. Le nom, le prénom.
La date de naissance.
La date de naissance et uniquement le statut valide ou non valide. Et donc la confidentialité des informations médicales, Jacques peut être rassuré, est tout à fait préservée dans ce dispositif-là. Il peut être rassurant parce que l'important est aussi d'expliquer dans cette situation pour éviter toutes les tensions.
Et pour poursuivre effectivement ce que vous dites, moi qui l'ai téléchargé pour voir en fait à quoi ça ressemblait tout simplement, donc j'ai vérifié ma famille et quelques-uns de mes amis, effectivement il y a marqué « vérifier » en vert au-dessus, mais « vérifier » effectivement ne dit pas « est-ce que c'est vacciné, est-ce que c'est test PCR, etc. » ça ne le dit pas. Ajoutons que lorsqu'on veut revenir en arrière dans l'historique, on ne peut pas. C'est important aussi peut-être de le dire, moi aussi, parce que je me suis amusée pour voir si on pouvait voir tout ce que j'avais contrôlé pour voir. Et en effet, on ne peut pas revenir en arrière, c'est important de le préciser aussi. Voici une question d'Yvan qui est dans le Val d'Oise sur franceinter.fr et qui dit ceci. Je suis vaccinée, je suis pour la vaccination, mais le problème que je trouve dans ce pass sanitaire, c'est que l'État se décharge de sa responsabilité en demandant aux entreprises de gérer les contrôles du pass sanitaire. Est-ce que vous, l'inspecteur du travail, c'est quelque chose que vous entendez beaucoup, par exemple ?
Non, on comprend bien sûr la contrainte que ces dispositions imposent aux entreprises, aux salariés, à ceux qui contrôlent dans ces entreprises. En même temps, cette contrainte, elle est due à quoi ? Elle est due à la volonté de garder ces lieux ouverts. Et donc, nous entendons relativement peu l'argument du fait que l'État se déchargerait. Je crois que c'est une logique qui est bien comprise par les exploitants de ces lieux soumis au pass sanitaire.
Soignement, je vous vois faire oui avec la tête.
Oui, parce que je suis tout à fait d'accord. En réalité, les entreprises sont assez volontaires dans ce dispositif-là et chacun a une responsabilité pour pouvoir vérifier, de vérifier justement la validité des passes sanitaires du personnel placé sous sa responsabilité.
On l'a beaucoup remarqué ces derniers jours, les plus inquiètes étaient les entreprises de la restauration, l'une des raisons étant que leurs employés salariés sont en général plus jeunes. Et comme on le disait en introduction, soit effectivement il y a plus de réticence chez les jeunes, soit c'est simplement que l'accès au vaccin était plus tardif, donc ils ne sont pas au bout de leur processus vaccinal lorsque c'est un processus vaccinal. Est-ce qu'on sait d'emblée, Sonia Moreau, qu'il va falloir être un peu plus coulant avec ce genre d'entreprise, que c'est plus difficile pour elles que pour d'autres ou pas du tout ?
Alors après, il faut distinguer, là vous parliez de salariés qui sont jeunes, il faut faire la distinction entre ceux qui ont moins de 18 ans ou plus de 18 ans.
Théoriquement plus de 18 ans parce qu'il travaille, on va dire.
Il n'y aura pas de différence. Celui qui a plus de 18 ans, il est soumis au pass sanitaire lorsque son établissement est soumis au pass sanitaire. Et à partir de là, on sait qu'il y a une semaine de battement où il va y avoir une certaine souplesse. Mais à partir du moment où cette semaine-là sera écoulée, quel que soit l'âge, je dirais, des salariés et du public, les règles s'appliqueront.
Vous, inspecteur du travail, d'ailleurs, est-ce que vous allez faire des vérifications? Et surtout, quand vous allez vérifier, est-ce que, en fait, votre boulot, c'est de vérifier que le patron de l'entreprise vérifie bien ses salariés, ou est-ce que votre rôle peut aller au-delà?
Alors, le système d'inspection du travail est évidemment très mobilisé depuis le début de la crise sanitaire. On a vu d'autres occasions d'en parler sur ce plateau. En Ile-de-France, pour donner un chiffre, 10 000 interventions du système d'inspection du travail depuis le début de la crise sanitaire.
Pour vérifier quoi, majoritairement ?
Des conditions sanitaires, d'accord, des conditions de mise en œuvre du télétravail. L'inspection du travail n'est pas spécifiquement mandatée pour aller contrôler l'obligation de l'employeur sur ce point particulier. Bien sûr, nous continuerons à être mobilisés sur notre mission de conseil, notre mission de contrôle, mais qui s'inscrit dans le respect des principes généraux de prévention. En clair, les forces de l'ordre sont, à titre principal, ceux qui contrôleront le respect par les personnes qui sont soumises au pass sanitaire ou par celles qui sont soumises à son contrôle.
Mmh, d'accord, parce que l'interrogation que j'avais, c'était que je comprends bien que vous n'êtes pas la police, donc vous ne pouvez pas vérifier que les gens ont bien leur passe. En revanche, est-ce que vous êtes mandaté pour vérifier que le patron demande bien à ses employés ou pas du tout ?
Non, la vérification, y compris que l'employeur procède à cette vérification, est une compétence des forces de l'ordre à titre principal.
Dorian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Dorian, allez-y.
Alors, en fait, moi, j'avais une question à poser. En fait, c'est que donc
c'est le bon endroit.
les restaurateurs, ils viennent donc dans un magasin chercher des légumes, tout ça. Mais en fait, les employés n'ont pas le pass sanitaire, alors que lui est obligé de l'avoir. Et si on écoute que madame la ministre du Travail a dit ce matin, elle dit qu'en fait, les gens qui ont du monde doivent avoir le pass sanitaire. Donc, ces gens-là, ils vont acheter des légumes chez quelqu'un qui n'a pas de pass sanitaire, que c'est pas obligatoire, pour revenir amener tout ce qui est légumes pour des fruits chez eux.
Merci Dorian pour cette question. Il y a quelques auditeurs effectivement qui pointent ce genre d'incohérence. Est-ce qu'on sait pourquoi, Sonia Moreau, j'en ai un vague souvenir, les centres commerciaux, en tout cas ceux de petite taille en tout cas, ne sont pas soumis à passe sanitaire, y compris pour les employés?
Tout à fait. Les centres commerciaux de petite taille ne sont pas soumis au passe sanitaire pour que les personnes puissent accéder aux produits de première nécessité. Donc typiquement, aller acheter à manger, ça concerne aussi les pharmacies. Et donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver effectivement dans une situation où un restaurateur qui, lui, est soumis au pass sanitaire pourrait se rendre dans un magasin qui n'est pas soumis au pass sanitaire et ramener les produits qu'il aura pu acheter sur place dans son restaurant.
Et c'est vrai que j'ai envie aussi de le retourner en disant, après tout, jusqu'à présent, nous, consommateurs, étions soumis à pass sanitaire alors que les employés, les serveurs, etc. n'étaient pas soumis à pass sanitaire. Il y a toujours un respect, c'est ça que vous vérifiez aussi, j'imagine, un respect des règles, des gestes, des gels hydroalcooliques, etc., qui vont évidemment dans les entreprises, dans les restaurants et partout, avec les nouvelles mesures.
Absolument, cette exigence du pass sanitaire est une mesure qui est graduée, qui est centrée sur les lieux où c'est le plus important, et elle fait partie d'un tout. Et j'en profite pour rappeler, y compris lorsque le pass sanitaire est utilisé, l'importance des gestes barrières, l'importance du masque, de l'aération des pièces, qui sont évidemment tout aussi essentielles. Elles sont résumées dans un document qui s'appelle le Protocole national pour les entreprises, qui est accessible sur le site internet du ministère du Travail et qui rappelle vraiment toutes les règles à utiliser par les entreprises.
Voilà une sorte de cas d'école que nous soumet Didier de Nogent-sur-Marne sur franceinter.fr et qui nous dit ceci. J'ai bien compris qu'on ne peut en aucun cas demander à un salarié s'il est vacciné, si ce n'est vérifier effectivement son passe sanitaire. Mais à quelqu'un qu'on embauche, qu'est-ce qu'on dit en fait ?
Alors,
Sonia Moreau.
Une personne qu'on embauche, en réalité, on va la prévenir, on va l'informer que le poste qu'elle va occuper est soumis ou non au pass sanitaire. Et donc, on va lui dire que si jamais, le jour où elle va venir prendre son poste, elle aura à présenter un pass sanitaire. Mais en revanche, on ne peut pas exiger, au moment où on va le conclure le contrat de travail, par exemple, on ne peut pas exiger de sa part la présentation d'un pass sanitaire ou d'une vaccination ou d'un certificat de rétablissement. C'est uniquement le jour de l'embauche qu'on pourra lui demander la présentation du pass sanitaire.
Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas vaccinée ou n'a pas fait les tests PCR, etc., mais qui vient d'être embauchée, l'employeur peut le découvrir au moment de sa prise de service. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur les fameuses suspensions du contrat de travail. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en période d'essai, par exemple, Sonia Moreau?
Alors, quand on est en période d'essai, eh bien, alors, dans l'hypothèse où la personne ne montrerait pas son pass sanitaire, j'imagine. Alors, on est dans le cadre d'une période d'essai. Le salarié ne présente pas son pass sanitaire, son contrat, effectivement, peut être suspendu. Il y a un entretien qui va pouvoir se tenir dans les 3 jours. Si jamais il ne présente pas son pass sanitaire, et à partir de là, le contrat peut être suspendu. Il est vrai que dans le cas d'une période d'essai, on pourrait imaginer des employeurs qui romperaient la période d'essai des salariés qui seraient concernés parce qu'ils n'auraient pas présenté de pass sanitaire. Ceci étant, la période d'essai, elle est faite pour pouvoir apprécier les qualités professionnelles d'un salarié. Si jamais le salarié n'a jamais exercé ses fonctions et a toujours été en suspension de contrat. On est en train de démontrer qu'en réalité, la période d'essai n'a pas été rompue parce que le salarié ne faisait pas l'affaire. Donc là, il y aurait un risque de remise en cause de la rupture.
Lionel, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, allez-y, Gaëtan Rudan.
Surtout, ce que je veux dire, c'est que dans cette situation, comme dans toutes les situations où une difficulté se présente de ce type, on a le souhait que le dialogue soit vraiment le premier levier pour trouver des solutions. Des solutions existent, la prise de congé, je ne parle pas en période d'essai, c'est un peu plus compliqué, la prise de congé, de RTT, d'aménagement de poste de travail. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on aborde cette mesure. Le dialogue doit être au centre de la construction d'une situation régulière.
L'échange de fonctions, voilà, c'est le mot que je cherchais, est possible dans certaines entreprises également, j'imagine. Elle n'est pas dans toutes. Je veux bien imaginer qu'un serveur ne peut pas s'improviser cuisinier en allant de l'autre côté, mais ça aussi, ça fait partie des clés que les employeurs ont à disposition. Peut-être rappeler aux gens que ne pas avoir de passe sanitaire ne veut pas dire qu'on se retrouve à la porte tout de suite. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça et surtout beaucoup plus réglementé que ça. Sonia Moreau, c'est important
de le redire
aux gens qui nous écoutent.
C'est réglementé et en plus de ça, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que un salarié dont le contrat de travail serait suspendu, effectivement, son employeur va chercher à pouvoir soit voir si ses fonctions peuvent être exercées en télétravail, soit si un autre poste qui ne serait pas soumis au pass sanitaire peut lui être proposé. Alors après, tout dépend de la formation du salarié, de ses compétences, de la taille de l'entreprise. On imagine bien que dans une entreprise de petite taille, ça sera beaucoup plus délicat. Mais il y a effectivement des solutions et en tout état de cause, le salarié n'est pas à la porte dès lors que son contrat est suspendu, effectivement, pour défaut de présentation du pass sanitaire.
S'il faut interchanger un certain nombre de fonctions, effectivement, le temps d'eux, est-ce que ça nécessite une modification du contrat de travail ou pas ?
Tout dépend des fonctions qui sont exercées par le salarié, tout dépend des fonctions qu'on lui propose et qu'on entend lui faire occuper. Donc ça va être du cas par cas.
Et est-ce que ça peut entraîner une baisse de salaire ? C'était ça le sens de ma question.
Alors,
surtout,
une baisse
en fait,
de salaire, c'est une modification du contrat de travail. D'accord. Donc en tout état de cause, ça impliquerait un accord préalable du salarié concerné.
D'accord. Donc du coup, je vais reformuler. Est-ce qu'il est possible, effectivement, de se retrouver dans des situations où, faute de passe sanitaire et afin de trouver un accord qui n'irait pas jusqu'à un renvoi, les prud'hommes, etc., quelqu'un se retrouve avec un salaire qui est diminué parce qu'il ne remplit plus les fonctions qui étaient les siennes et qui étaient censées être les siennes.
On pourrait tout à fait l'imaginer, mais ça serait sous réserve qu'un avenant au contrat de travail soit signé avec le salarié, donc il ait donné son accord préalable.
Bonsoir Lionel.
Bonsoir.
On vous écoute Lionel.
Oui, je vous appelais pour parce que je suis bénévole moi dans une association qui offre des denrées alimentaires dans un lieu fermé, hein, et donc j'aurais aimé savoir si en tant que bénévole je devais avoir le pass. Et puis, si les gens à qui on propose ces produits doivent aussi avoir le pass.
Eh bien, voilà une bonne question. Est-ce que les bénévoles sont soumis ? Est-ce que vous savez ça l'un l'autre ? Vous savez ça, Sonia Moreau ?
Oui,
est-ce que les bénévoles sont soumis,
mais alors là, en revanche, on est en train de parler de
distribution de repas, j'imagine.
Voilà, Lionel, distribution de repas gratuite. Et pour le coup, la distribution de repas gratuit est exclue.
De denrées, oui, c'est ça. Vous êtes au Resto du Cœur pour dire les choses, voilà. Et vous donnez des produits aux gens qui en ont besoin.
Des produits, des boîtes de conserve.
Ouais, d'accord, okay.
Ça, quoi,
ouais. Ok, d'accord. Voilà, je vois. Voilà. Ouais.
En réalité, c'est le même raisonnement qui s'applique. Que pour première les... question. Mmh. Est-ce que pour les personnes qui viennent récupérer ces denrées, elles sont soumises à l'obligation de passe sanitaire. Mmh. Au cas d'espèce, ça n'est pas une activité qui entre dans la liste qui soumet au passe sanitaire. Et donc les salariés de ces activités, mais les bénévoles, ne sont pas plus soumis au pass sanitaire. Ce qu'il faut souligner à cette occasion, et merci beaucoup de cette intervention, c'est qu'on parle évidemment beaucoup des salariés, 1,8 million de personnes sont concernées. Ouais. Mmh. Mais en réalité, ce sont tous ceux qui interviennent dans ces activités, dans ces établissements, c'est-à-dire ceux qui, soit bénévoles, soit prestataires, soit sous-traitants, sont amenés à être au contact du public.
Voici, je n'ai pas son prénom, Catherine sur franceinter.fr qui dit « Le pass sanitaire est-il indispensable aux députés pour assister aux séances de l'Assemblée nationale ? Ces personnes font les lois, mais les appliquent-ils eux-mêmes ? » Est-ce que là aussi, on est dans le cadre de « on est entre nous, on ne reçoit pas le public, donc on n'est pas soumis au pass sanitaire ?» Est-ce que ça dit la même chose ? Je vois que Gaëtan Rudan est en train de regarder dans son grand cahier. Vous faites bien. Mais je peux vous laisser y songer avant de répondre à la question de Catherine.
Je ne crois pas effectivement que siéger au Parlement, que le Parlement soit un lieu où le pass sanitaire est requis. Et donc les députés qui y travaillent, qui ont d'ailleurs un statut très particulier, n'y sont pas soumis. Comme d'ailleurs, et c'est beaucoup plus fréquent, les organes délibérants des collectivités. Ce ne sont pas des lieux qui sont destinés à recevoir du public en masse.
D'accord.
Et donc l'exigence de passe
sanitaire.
Assemblée,
conseil municipal, conseil régional, etc. Même combat, en quelque sorte, pour tout le monde. Voici une autre question, peut-être une colle, je ne sais pas, sur franceinter.fr. Pourquoi le passe sanitaire n'est-il pas obligatoire pour les enseignants qui sont pourtant en contact avec un public à risque ? Et Dieu sait que les conjectures parfois et les interrogations vont bon train autour des enfants. Est-ce qu'on sait pourquoi les enseignants ne sont pas dans l'obligation, Gaëtan Rudeau ?
Non, les enseignants... comme d'ailleurs nos enfants qui fréquentent les établissements scolaires, sont l'objet d'un protocole national vraiment dédié, tout à fait adapté, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, avec quatre niveaux de mesures qui sont prises. Donc la question de la sécurité autour de cette profession et des enfants qui sont à proximité est gérée à travers ce protocole national.
Une autre question sur franceinter.fr qui dit un licenciement pour défaut de passe sanitaire, alors quand on arrive au bout du bout, effectivement, parce qu'on a bien compris qu'il y avait d'autres moyens. Est-ce que ça se plaide devant les prud'hommes ?
C'est difficile. C'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que c'est du cas par cas. Ça va vraiment dépendre de la situation, du salarié, de l'entreprise et du motif réel en fait, qui va être invoqué par l'employeur au soutien de cette mesure de licenciement. On le sait que le fait de ne pas détenir le pass sanitaire, en tant que tel, ça ne permet pas d'autoriser un licenciement. Donc un employeur ne peut pas dire « vous n'avez pas votre pass sanitaire, je vous licencie ».
Alors imaginez que je n'ai pas mon pass sanitaire et on me dit « bon bah puisque tu n'as pas ton pass sanitaire, au lieu d'être à l'accueil du public, tu vas t'occuper de la comptabilité derrière ». Et si moi je dis « je ne veux pas » en fait, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est là que ça commence en fait
C'est là que les difficultés vont commencer.
Ouais.
En réalité, si jamais on part du postulat que les mesures vont s'arrêter au 15 novembre, on est dans une situation finalement avec un délai qui est très court.
Ouais, ouais.
Prendre des mesures de licenciement et des mesures aussi jusqu'au boutiste qu'un licenciement, c'est dangereux. Donc il faut vraiment voir après au cas par cas. Après, si jamais ça se poursuit au-delà du 15 novembre, c'est vrai que ça pourrait devenir très problématique pour certaines entreprises.
J'allais dire, est-ce que vous, l'avocate, vous comptez sur... Enfin, je veux dire, quand vous discutez, y compris avec vos clients, vous mettez cette date du 15 novembre en avant. Est-ce que ça fait partie des arguments ou est-ce que vous dites, attention, méfiez-vous, parce que le 15 novembre peut aussi bien être un 15 décembre et aller savoir quoi ?
Alors oui, on imagine bien que ça pourrait aller au-delà du 15 novembre. Ouais. Après, je dirais que les entreprises ne sont pas dans cette logique de se dire, il faut qu'on très rapidement... se débarrasser des salariés qui n'ont pas leur passe sanitaire.
Mais est-ce que c'est tenir jusqu'au 15 novembre ? Est-ce que c'est ce qu'on entend dans les entreprises ?
Non,
trouver un système et tenir jusqu'au 15
novembre ?
Comme
là, c'est le premier jour. En réalité, j'ai l'impression que le premier jour se passe plutôt bien, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Le premier jour se passe plutôt bien, donc après, c'est de voir comment ça va se passer à long terme. C'est de voir éventuellement les cas de salariés qui ne présenteraient pas leur passe sanitaire d'ici au 15 novembre. Après, on pourrait le rapprocher d'une situation où un salarié qui aurait besoin d'avoir son permis de conduire n'aurait pas son permis de conduire. Le permis de conduire serait... il aurait un retrait de permis de conduire ou une suspension du permis de conduire. Ce sont des situations qui peuvent justifier parfois un licenciement. Mais après, tout dépend tout dépend du contexte, tout dépend des
conditions dans lesquelles on a perdu son permis aussi, j'imagine, entre conduite en état d'ivresse et simplement
exactement.
Avoir pris un poteau,
voilà, donc,
c'est quand même
en fait,
deux choses très différentes. Voici une question rapide, réponse rapide. Quelle est la durée de validité du pass sanitaire ? On est d'accord qu'il n'y a pas de durée de validité du pass sanitaire,
en fait, Gaëtan Rudon ? Le pass sanitaire, c'est la démonstration qu'on est dans un état sanitaire où on limite le risque de contamination. Et donc cette démonstration, c'est soit parce qu'on a été vacciné avec un schéma vaccinal complet. Dans ce cas-là, le pass sanitaire sans nouvelle mesure reste valable indéfiniment. Soit le fait qu'on ait réalisé un test RT-PCR, antigénique, ou même autotest validé, réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé. Et dans ce cas-là, la validité est donnée pour 72 heures.
Est-ce que, j'ai cette curiosité, moi, est-ce qu'on est obligé, je pense aux petites entreprises, alors une tour de la Défense, c'est autre chose, ou un endroit qui accueille du public, un musée, c'est autre chose, mais où il y a beaucoup d'employés. Une structure qui reçoit du public, donc qui est soumise au pass sanitaire, mais où chacun connaît les employés, les salariés, etc., est-ce qu'on est vraiment obligé de le demander tous les jours, ne serait-ce que pour que ce soit inscrit sur l'appli, effectivement, voilà, j'ai 12 employés, j'en ai vérifié 12, ou est-ce qu'on peut considérer, je pense surtout aux gens qui sont double vacciné, une fois que c'est fait, on ne va pas s'enlever subitement une dose de vaccin. On peut considérer qu'on vérifie une fois, on ne vérifie pas deux fois. C'est possible ça ou pas ?
Il y a une disposition spécifique prévue pour les salariés dans une entreprise. Quand ils ont été vaccinés, ils peuvent présenter en fait à leur employeur le certificat de vaccination. Et en réalité, à partir de là, l'employeur va leur remettre un document qui va pouvoir justement alléger finalement cette procédure de contrôle du pass sanitaire.
On montre quand même le document, en fait, mais c'est un document passe-partout qu'on n'a pas besoin de scanner, c'est ça l'idée ?
Alors, le salarié va montrer le certificat de vaccination à son employeur qui ne pourra pas le conserver et qui va établir sur cette base-là un document pour pouvoir justifier d'un contrôle allégé du pass sanitaire.
Gaëtan Hudon, je vous sens prêt à intervenir.
Merci beaucoup. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que cette démarche est forcément volontaire de la part du salarié. On parle là d'informations médicales et c'est essentiel qu'elle ne puisse pas être demandée d'autorité. Donc un salarié qui est volontaire peut bénéficier de cette souplesse si l'employeur l'organise.
Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Pascal.
Je dois contrôler les passes sanitaires, sauf que je ne connais pas tous les salariés. Mm-hmm. En conséquence, je leur demande leur carte d'identité. Mm-hmm. Ils prétendent que je n'ai pas le droit, de la même manière que ça m'arrive aussi, personnellement, quand je vais dans un lieu, on ne contrôle pas ma carte d'identité. Mm-hmm. Alors, si je ne contrôle pas ma carte d'identité, je ne peux pas faire de contrôle réellement, c'est une fraude. Mm-hmm. Donc, ma question est la suivante. Quand je vais payer avec un chèque chez un commerçant, le commerçant me demande une voire deux cartes d'identité. Mm-hmm. Quand je prends l'avion, on vérifie ma carte d'identité avec le billet d'avion. Donc, est-ce que j'ai le droit de demander ou non la carte d'identité ? Et dans ce cas-là, sinon, pourquoi ?
Eh bien, question simple. Pascal, merci beaucoup. Sonia Moreau, je vous vois faire non avec la tête.
Non,
il n'a pas le droit.
Effectivement, l'employeur n'a pas la possibilité de demander, de contrôler la carte d'identité de ses salariés.
Donc, il faut faire confiance. C'est comme ça que ça marche, en fait.
Exactement.
On m'a demandé, moi, une fois, ma date de naissance. J'ai trouvé que c'était assez marrant. On m'a pas demandé mes papiers, mais on m'a demandé ma date de naissance comme pour une manière de vérifier en fait que c'était bien moi.
La date de naissance qui est mentionnée sur le...
Exactement, qui est mentionnée. Une manière de vérifier que c'était bien moi. Est-ce que cette personne avait le droit de le faire ? Est-ce que j'aurais pu dire pas du tout, je vous la donne pas ou pas ?
Là, je dirais que c'est une question de fonctionnement en bonne intelligence.
Est-ce qu'on a le droit ?
C'est juste poser une question. Vous n'avez pas présenté de documents. Il y aura pas de réponse gravée dans le marbre à ce sujet-là.
D'accord.
La seule limite, c'est de ne pas avoir à présenter ses papiers d'identité, répondre à une question sur la date de naissance qui est mentionnée sur le pass.
J'ai trouvé que c'était une manière un peu de ne pas vouloir me demander mes papiers, en même temps de se dire. Attends, celle-là, si elle a pris le passe de quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle se souvient de son nom, mais pas forcément de sa date de naissance.
En tout état de cause, vous n'auriez pas donné la bonne date de naissance, quelles auraient été les conséquences ?
Alors voilà, c'est une bonne question.
Parce qu'en réalité, si jamais vous n'avez pas à présenter vos papiers d'identité, que le passe sanitaire que vous présentez est valide, théoriquement, vous devez pouvoir accéder au lieu en question.
Ceci étant, la possibilité est par contre évidemment ouverte aux forces de l'ordre pour contrôler l'identité. Et donc, les cas d'usurpation d'identité, de falsification sont évidemment contrôlés. Et dans ce cas-là, même si ça n'est pas fait par le salarié, donc pas par Pascal au cas d'espèce, c'est une possibilité qui est offerte aux forces de l'ordre avec des sanctions à l'appui, bien sûr.
Mais Pascal, est-ce que ça veut dire, puisque vous êtes encore là, que vous avez le sentiment que qu'il y a quelques fraudeurs en fait dans l'entreprise, c'est ça l'idée ou est-ce que c'était juste par souci de faire les choses vraiment à la lettre ?
Non, premièrement, c'est de vouloir faire les choses bien. Deuxièmement, il y a des anti-vax. Donc de toute manière, oui, il y a des fraudeurs, et d'autant plus qu'ils se vantent de frauder, d'aller au restaurant avec le téléphone du copain ou de la copine. Donc si on le fait pas, et puis si on le fait pas, soit dans des entreprises ou soit qu'on va au restaurant, je suis très étonné de voir qu'un restaurateur ne me demande pas ma carte d'identité, alors qu'il va me la demander pour pouvoir si je paye par chèque.
C'est vrai que moi, personne ne m'a jamais demandé, à part cette date de naissance, mais jamais personne ne m'a demandé quoi que ce soit en fait. Est-ce que l'employeur est en fraude si je me contente de lui montrer le pass sanitaire qui dit c'est bon, tu peux passer, c'est bon. Est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au scan en fait pour que ce soit juridiquement valable, on va dire, ce contrôle ?
Je pense qu'il faut vraiment que le contrôle soit réalisé dans des conditions loyales, que ce soit avec un pass présenté en papier ou que ce soit avec un pass présenté sur un téléphone. Il faut que l'opération de contrôle soit réelle.
Jean-Guy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jean-Guy.
Oui, je voulais savoir si des personnels de restauration qui sont en cuisine, donc du coup dans des salles qui ne sont pas soumis au public, ont des obligations de présenter un pass sanitaire.
Merci beaucoup. Et alors, c'est vrai qu'on parlait de cas par cas tout à l'heure en cas de litige, Sonia Moreau. Mais c'est vrai que dans chaque entreprise, on pourrait aussi jouer effectivement au cas par cas. Il a raison, Jean-Guy. Est-ce qu'on peut, quand on est le cuisinier et qu'on n'a pas contact au public, dire non, moi, je montre pas mon passe?
Alors, quand on est cuisinier et qu'on n'a pas de contact effectivement avec le public, et ça, c'est la loi qui le prévoit, dans ces cas-là, il n'y a pas d'obligation d'avoir le passe sanitaire. Après, encore une fois, c'est ce qu'on se dit, c'est du cas par cas. Mm-hmm. Si on est dans une cuisine qui est ouverte, finalement, qui fait partie de l'espace auquel le public peut accéder, dans ces cas-là, on aurait une obligation d'avoir à fournir le passe sanitaire. Il faut également penser à la situation d'un cuisinier qui viendrait en salle, et dans ces cas-là également, il aurait l'obligation d'avoir le passe sanitaire. Donc c'est vraiment une question de cas par cas.
Peut-être pour que nos auditeurs aient la visibilité d'ensemble, le pass sanitaire n'est pas exigé pour les salariés qui ne sont pas en contact avec le public. Soit parce qu'ils interviennent en dehors des horaires de présence du public, soit parce qu'ils interviennent en dehors des lieux du où périmètre. Il y a du public. Puis par ailleurs, il y a deux autres motifs de dispense de présentation du pass sanitaire. Ce sont les interventions d'urgence. On imagine bien que s'il y a une fuite de gaz, on ne va pas attendre d'avoir trouvé quelqu'un qui a un pass sanitaire pour réparer. Et puis les opérations de livraison qui sont aussi prévues comme un cas d'exception.
En parlant de cas d'exception, cette question d'Hélène sur franceinter.fr. Alors je sais que la réponse, j'entends votre réponse d'ici là, mais je trouve la question intéressante. Elle dit, est-ce que moi, consommatrice, j'ai le droit de demander en retour à un serveuse, une hôtesse, etc. Son QR code?
J'aurais tendance à vous dire non, en réalité, parce que ça, c'est la responsabilité de l'employeur, et l'employeur, en sa qualité de responsable du site, vous assure et vous garantit que son personnel est soumis à un pass sanitaire valide. Donc, à partir de là, c'est le client n'a pas plus de droits que l'employeur et encore moins que les officiers de police judiciaire.
Ayons confiance les uns les autres, les amis, ça nous aidera tellement à vivre.
Tout à fait.
Véro sur franceinter.fr nous dit ceci, mon concubin travaille à Pôle emploi et vos invités peuvent-ils nous expliquer pourquoi dans cet établissement qui reçoit du public, personne ne doit justifier du pass, ni employé, ni demandeur d'emploi, n'est-ce pas une aberration?
Alors de manière générale, l'accès au service public n'est pas conditionné à la présentation du pass sanitaire. Rares sont les services publics où on a simultanément énormément de personnes en présence, et même chez Pôle emploi, on n'a pas des milliers de personnes comme dans une salle de concert, fort heureusement. C'est le principe d'accès au service public
qui a prévalu pour faire en sorte
qu'il y ait une continuité en exigeant pas le pass sanitaire.
Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Allez-y Lucie, on vous écoute.
Donc voilà, je dirige un établissement de formation dans lequel vont se côtoyer à la fois des étudiants de l'université pour lesquels il n'y a pas d'obligation de pass sanitaire, mais également nous recevons dans cet établissement les étudiants infirmiers et les étudiants aides-soignants pour lesquels la vaccination est obligatoire. Et tout ce petit monde va côtoyer le même établissement, les mêmes salles de classe, les mêmes espaces de pause. Donc je voulais savoir si cette obligation de vaccination pour les étudiants de l'IFSI et de l'IFAS doit obligatoirement être aussi imposée aux étudiants et aux enseignants de l'université qui, pour eux, aujourd'hui, n'ont pas d'obligation.
Là aussi, cas d'école, elle a raison, Lucie. En soi, c'est assez logique ce qu'elle nous dit. Comment on sort de cette situation-là?
Assez simplement. D'abord, reposons juste en un instant ce dont on parle. On ne parle pas là de l'obligation de passe sanitaire, mais de l'obligation de vaccination qui s'impose aux personnes qui travaillent dans des hôpitaux, qui exercent certaines fonctions, médecins, infirmiers, ou qui sont élèves pour accéder à ces métiers. Et donc, je suppose que Lucie travaille dans un établissement de formation où il y a des élèves de ces métiers, peut-être infirmiers, que sais-je. Il n'y a pas d'effet de proximité. Ce n'est pas parce qu'on est en contact avec quelqu'un qui est soumis au pass sanitaire qu'on est soi-même soumis au pass sanitaire. L'idée est de faire en sorte que les personnes ces élèves qui ensuite seront au contact avec des patients qui le lendemain de leur jour de formation didactique peuvent se trouver dans une salle d'opération, ces personnes-là apportent un niveau de garantie. Mais de la même façon, l'élève infirmier quand il rentre chez lui peut avoir pour conjoint quelqu'un qui ne travaille pas dans un établissement où le pass sanitaire est requis. Donc il n'y a pas d'effet de proche en proche de l'exigence de passe sanitaire.
Denis est avec nous. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir.
Allez-y Denis.
J'aimerais savoir s'il y a une traçabilité sur le scan qui est effectué sur le téléphone du client qui se rend au restaurant ou au café. Mm-hmm. Parce qu'on voit la personne scanner le QR code, mais je ne sais pas si c'est stocké sur une application quelconque, enfin, s'il y a possibilité de savoir que telle personne est passée dans un restaurant. Mm-hmm. À telle heure, dans telle ville. Voilà.
Mmh, mmh. Merci beaucoup, Denis. On a partiellement répondu, mais on va le refaire, parce qu'il y a beaucoup de questions comme ça, et c'est important, parce que c'est vraiment la question que les gens se posent. Est-ce que, oui ou non, quand Denis aura montré son QR code, on peut le tracer? Est-ce qu'on sait où il est passé? Est-ce qu'on sait à quel endroit il était? Etc., etc. Sonia Moreau.
Non, il y a, une fois que le QR code a été scanné, il n'y a aucun traçage, et les informations ne sont pas conservées. Donc, c'est une l'application scanne le code, on sait si le pass est valide ou non valide, et après les informations disparaissent.
Voilà. Et puisque la nouveauté du jour est l'obligation du pass sanitaire pour les salariés, mm-hmm. on peut même poser un tout petit peu pour les salariés. L'employeur lui-même n'a pas le droit d'enregistrer des informations Exactement. Qui seraient associées au QR code. Il n'a pas le droit d'enregistrer ce qu'on évoquait tout à l'heure, un statut vaccinal. Il peut enregistrer les résultats du test, mais aucune autre information.
Est-ce qu'il est envisageable d'envoyer des bus dans certaines zones d'emploi? Est-ce que ça vous semble faisable, nous demande cet internaute sur franceinter.fr, exactement comme on envoie parfois des bus de vaccination auprès des personnes âgées qui ne se sont pas encore vaccinées pour X ou Y raison. Est-ce qu'un employeur a le droit d'organiser une vaccination pour les employés qui le souhaitent?
Non. Le ministère du Travail recommande évidemment la vaccination.
Alors, lorsqu'il y a une médecine du travail, etc., c'est faisable. Lorsqu'il y en a, alors ça se passe chez nous, par exemple, mais c'est facile. On est très nombreux. Il y a donc une médecine du travail et donc un vaccin potentiellement contre le Covid, contre la grippe, d'ailleurs également. Mais dans les structures qui sont plus petites, qui n'ont pas de médecine du travail, est-ce qu'un employeur peut le demander pour faciliter l'accès au vaccin aux employés qui le souhaitent, ou est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire?
Alors non seulement il peut le faire, mais il est inciter à le faire. En réalité, il existe deux types de médecine du travail, probablement comme ici à Radio France, une médecine du travail interne à l'entreprise, ou des médecines du travail qui sont dites inter-entreprises, des services qui travaillent pour des entreprises nombreuses, souvent de petite taille. Et les services de santé inter-entreprises ont mis en place l'appui aux employeurs pour déployer la vaccination.
Il nous reste une poignée de secondes. Je peux pas prendre Bill, mais je vais prendre votre question dans ma voix. Ne vous inquiétez pas, comment pourrait-on savoir que les restaurateurs contrôlent le pass de tout le monde? Seront-ils contrôlés eux aussi? Vous avez partiellement répondu déjà, Gaëtan Rudan, mais allons-y, rassurons Bill.
Oui, effectivement, la période aujourd'hui est celle du début du contrôle des salariés. Mmh. Donc la ministre du Travail a indiqué qu'il y aurait une période de rodage. Mais depuis quelques semaines, il y a effectivement des contrôles des forces de l'ordre pour s'assurer que le pass sanitaire est bien contrôlé lors de l'accès aux établissements.
Voilà, il y aura d'autres contrôles après rodage. Merci beaucoup pour ces explications simples les uns les autres. Merci mille fois, merci pour vos très nombreuses questions. Avant de vous quitter, je voudrais quand même remercier très fort Tristan Gratalon, dont c'est la première réalisation du 18-20 ce soir. On l'embrasse. Merci à Mélissa Delman et à Nathalie Poitvin pour la programmation. Dans cette nouvelle saison, à Marie-Claude Pinson qui est rédactrice en chef à la technique ce soir, il y avait Michel Bézikian et Selim Guéribi. Merci à tous.